Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un procès symbolique qui s'ouvre aujourd'hui à Hong Kong, celui de plusieurs responsables de la révolte des parapluies, le mouvement pro-démocratie qui avait secoué Hong Kong en 2014 et donné naissance au mouvement Occupy. Depuis, les militants sont poursuivis par la justice, certains purgent des peines de prison et les informations qui arrivent de Chine vont toutes dans le même sens. Camp d'internement pour les Ouïghours dans le Xinjiang, répression de toute dissidence, contrôle du web et des réseaux sociaux, disparition et purge dans le parti communiste, chez les hauts dirigeants et même chez les stars de cinéma. La Chine devient-elle une prison à ciel ouvert? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Julia Cornalba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la coordination Chine à Amnesty International France. Et Marie Holzmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sinologue, spécialiste de la Chine contemporaine et de la dissidence chinoise et présidente de l'association Solidarité Chine. L'actualité du jour nous emmène donc à Hong Kong avec l'ouverture de ce procès après ce mouvement qui avait duré plus de 2 mois et qui n'avait pas été réprimé comme celui de la place Tiananmen, c'est-à-dire pas dans le sang. Néanmoins, les autorités de Pékin n'ont manifestement pas l'intention de laisser filer, de ne pas sanctionner. Comment ce mouvement est traité par les autorités chinoises, Marie Holzmann ?
Eh bien, c'est intéressant d'observer l'évolution, parce que si ça avait été en Chine, les manifestations ont lieu en 2014, vous imaginez bien que ça fait longtemps que les Hongkongais seraient déjà sous les verrous. Mais ils ont été prudents, ils ont fait un mouvement qui a duré dans la longueur, qui a réussi à rassembler, non pas toute la population de Hong Kong bien sûr, mais une partie très importante. Les rues étaient noires de monde tous les soirs jusqu'à 2h du matin, et c'est la population tout entière qui a soutenu ces jeunes gens qui réclamaient le droit de vote. Or, ce droit de vote leur avait été promis pour l'année 2017, et c'est en 2014 que le gouvernement chinois a fait marche arrière en disant « Ah ben non, après tout, en gros, on va désigner celui qui sera élu. » Je simplifie. Et donc, les Hongkongais étaient furieux. Mais c'est à partir de 2016-2017 que les condamnations ont commencé à tomber. Et là, aujourd'hui même, on s'attend à un très long procès. Mais
c'est prévu pour durer 3 semaines. Hein.
Oui, c'est ça. Mais les chefs d'inculpation sont assez étonnants parce que on les accuse d'avoir incité au désordre public. Or, il n'y a pas eu de condamnation pour désordre public. Donc on se demande en quoi est-ce qu'ils sont coupables, si c'est juste d'avoir parlé un peu.
Ouais, Julia Cornalba, cette façon de traiter le sujet à Hong Kong, c'est plutôt positif, négatif, dans la mesure enfin, où on compare avec le reste de la Chine?
Bah effectivement, Mary Oldman disait que ça avait pris relativement un temps assez important. Moi, je dirais que ça montre aussi que finalement, le gouvernement ne lâche pas l'affaire. C'est-à-dire que derrière ça, le fait que des poursuites continuent à être engagées contre des figures importantes du mouvement des parapluies a un effet dissuasif à terme sur justement la liberté d'expression et la réunion pacifique à Hong Kong, et une condamnation de ces neuf personnes pourrait être lourde de conséquences, parce que les autorités pourraient justement s'appuyer sur les décisions du tribunal pour ensuite condamner d'autres personnes.
Ça pourrait faire jurisprudence.
C'est-à-dire que faut pas oublier qu'il y a une centaine de personnes qui sont encore sous le coup de la justice et qui attendent de savoir si oui ou non elles vont être poursuivies pour participation à ce qu'on appelle un rassemblement illégal, enfin à ce que Hong Kong appelle un rassemblement illégal.
Un pays, deux systèmes, c'était la promesse qui avait été faite après la rétrocession. Ce n'est plus le cas, ou est-ce que c'est de moins en moins le cas, Marie Holzmann ?
C'est de moins en moins le cas, et l'évolution est très rapide. Rien que cette semaine, enfin au cours des 7 derniers jours, on a quand même assisté à 2 interdictions. Une exposition de l'humoriste Ba Diu Cao, qui n'habite pas à Hong Kong, qui habite en Australie maintenant, je crois. Et bon, c'est vrai qu'il fait des caricatures de Xi Jinping. Hein. Bon, évidemment, c'est un lèse-majesté. Mais ce sont des caricatures vraiment charmantes. Je dis pas qu'il ressemble à Plantu, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de talent, beaucoup d'humour, beaucoup d'à-propos. Donc je trouve tout à fait regrettable que cette exposition ait été interdite. Et puis l'écrivain Ma Jian, qui est connu en France pour le roman Beijing Coma, devait faire une conférence donc devant un public qui n'allait pas être des milliers de personnes, hein, peut-être quelques dizaines ou vingtaines de personnes, et sa conférence a été interdite au dernier. dernier moment. Après, l'organisateur a fait marche arrière, il a quand même fait la conférence, mais c'est intéressant de voir que toutes les semaines maintenant, on a des incidents de censure, et bien sûr beaucoup plus d'incidents d'autocensure dont on n'entend pas parler. Donc, c'était un pays des systèmes en principe jusque 2047, mais si ça tient jusque 2027, ce sera déjà un miracle.
Alors, un pays de systèmes, l'autocensure, c'est quelque chose que vous ressentez, Amnesty International, Julia Cornalba, avec vos correspondants sur place fait qu'on prend moins de risques, quoi, tout simplement.
Disons que là, enfin, en l'occurrence, pour le procès des neufs du mouvement des parapluies, on a clairement des étudiants qui nous disent qu'ils font plus attention, qu'ils n'ont pas notamment les sous aussi pour pouvoir engager ensuite des procédures ou se défendre contre des procédures qui leur seraient mises, on est assez inquiet. Enfin, il y a clairement un effet dissuasif, et nous, on est assez inquiet sur la portée que pourraient avoir ces éventuelles condamnations, mais en tout cas ces arrestations pour la liberté d'expression à Hong Kong, en tout cas.
Dans le reste de la Chine, on va parler du Xinjiang un petit peu après, si vous voulez bien, Marie Holzman. La répression de la dissidence, ou la dissidence tout simplement, elle est traitée comment?
Alors, ce qui est intéressant pour vous autres journalistes, c'est que les inculpations sont toujours des prétextes. Donc, elle est traitée comment? En fait, c'est très difficile de savoir. Parce que, par exemple, on va dire c'est quelqu'un qui a détourné des fonds, c'est quelqu'un qui a reçu de l'argent d'une organisation terroriste à l'étranger, etc. Alors qu'en fait, c'est simplement quelqu'un qui a osé donner son avis et se mettre en opposition face au pouvoir. Mais là, on parlait de l'autocensure à Hong Kong, l'autocensure en Chine, bon, c'est presque systématique maintenant, mais j'assiste, moi, à beaucoup d'autocensure à Paris. Je connais beaucoup de gens de nationalité française qui vont hésiter à dire des choses parce qu'ils craignent de ne plus avoir de visa, de ne plus pouvoir aller en Chine, ou de nuire à leurs amis restés en Chine, ou à leurs parents restés en Chine. La Chine a réussi à imposer une forme de précaution sur la planète entière aujourd'hui.
Il y a une forme de terreur, vous diriez ça, Julia Cornalba?
En tout cas, au-delà de la terreur, je dirais qu'il y a une forme, oui, il y a de la peur, bien évidemment. On assiste vraiment, en Chine, à une forme de mainmise comme ça du gouvernement sur l'information, sur la liberté, toutes les formes de liberté, que ce soit liberté d'expression, liberté de réunion. Il y a réellement une sorte de crispation comme ça du pouvoir autour de ces libertés fondamentales et effectivement, ça peut à terme créer une forme de, si ce n'est de terreur, du moins en tout cas de grandes précautions des citoyens chinois, oui.
Les purges au sein du parti, des gens qui disparaissent quelque temps, puis qui réapparaissent sanctionnés, notamment pour des accusations de corruption, vous le disiez, Marie Holzman. Est-ce qu'il y a vraiment une justice qui s'applique ou c'est de l'arbitraire pur et simple?
Alors, si vous parlez à un Chinois, il va rigoler. Il va dire, mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de loi en Chine. La loi, elle s'applique à la tête du client. Xi Jinping va évincer tous ceux qu'il considère comme de potentiels rivaux. Et puis, il va condamner tous ceux qui appartiennent à la clique des anciens, c'est-à-dire soit de Hu Jintao, soit de Jiang Zemin. Donc maintenant, il fait venir des gens sur lesquels il peut s'appuyer, avec lesquels il était en province, par exemple au Zhejiang. Donc ces gens-là, il les fait monter à Pékin. Mais on a eu un cas extraordinaire, là, c'est le kidnapping du président d'Interpol.
Le patron d'Interpol chinois, voilà.
Qui est quand même...
Qui a disparu de son poste à Lyon, voilà, tout simplement.
Sa
femme est restée.
Il a pris l'avion et puis il s'est envolé. Et puis il s'est tellement envolé qu'il n'a jamais atterri, quoi. C'est quand même sidérant. Et sa femme est menacée. Elle a reçu des appels menaçants. Elle est en France. Maintenant, je pense qu'elle est protégée. J'espère qu'elle est protégée par la police française. Mais c'est un cas très, très, très gênant. Pour nous, Français, parce que qu'est-ce que ça veut dire? On a quelqu'un qui travaille, en principe, à Lyon, dont la famille vit à Lyon, et voilà que le pouvoir chinois se permet de l'intercepter, de le faire disparaître et de menacer sa femme. C'est quand même très grave.
Julia Cornalba, vous avez des informations sur comment ça se passe pour sa famille, quoi, tout simplement
En tout cas, ce que peut dire la disparition du président d'Interpol, c'est que clairement tout le monde est touché par cette espèce de,
oui, y a pas de gigantesque
droit, voilà, de gigantesque une sorte de gigantesque dispositif un peu sécuritaire qui en vient à broyer un peu tout le monde et qui laisse aux autorités le pouvoir d'arrêter n'importe qui de manière complètement arbitraire, selon des procès iniques, c'est-à-dire qui n'existent absolument pas, ou en tout cas de faux semblants de procès, et puis sous des chefs d'inculpation qui sont quand même extrêmement vagues, c'est-à-dire que on peut être arrêté pour subversion ou tentative de subversion de l'État, donc c'est quand même largement sujet aussi à interprétation. Donc,
ce fameux appareil répressif, Marie Holzmann, avec le contrôle technologique, hein, des systèmes de vidéosurveillance très poussés, très améliorés, des notes sociales, hein, on note les gens en fonction de leur comportement. Comment ça se passe concrètement ?
Alors concrètement, c'est très simple. Moi, je suis critique du Parti communiste chinois. Et vous engagez une amitié épistolaire avec moi par email, eh bien, vous allez perdre 20 points. Parce que vous correspondez avec quelqu'un qui dit des choses pas gentilles sur le pouvoir. Vous avez acheté à Hong Kong un livre qui est critique de Xi Jinping, ça a été remarqué à la douane, alors là vous perdez tout de suite 150 points. Et une fois que vous aurez perdu vos 500 points et que vous vous pointerez à l'aéroport pour prendre votre avion de Canton à Pékin, parce que sinon ça fait quand même 24 heures de train, eh bien on va vous dire, ah bah désolé, vous n'avez plus assez de points pour acheter votre billet d'avion. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, on a comptabilisé le nombre de Chinois qui ne peuvent plus acheter de billets d'avion. Ça se compte maintenant déjà pratiquement par 10 millions. C'est-à-dire des gens qui ont perdu leur point, qui ont dit à leur enfant, je sais pas moi, va étudier l'arabe et le Coran. Alors là, il a tout de suite perdu 3000 points, etc., etc.
Le but, vous le disiez, Julia Cornalba, c'est de réduire l'espace de liberté et de libre arbitre, hein, qui n'est pas d'espace pour pouvoir penser, dire son avis.
Oui, tout à fait. Bon, enfin, en tout cas, là, clairement, ça fait penser à un épisode de Black Mirror. Enfin, voilà, c'est la dystopie totale. On pense pas que ça puisse arriver, et en fait, effectivement, c'est le cas, et c'est dramatique. Enfin, ça grignote petit à petit toute potentialité de s'exprimer sur n'importe quel sujet, et ça fait que les personnes se marchent sur des œufs.
Quoi. Ouais, on parlait de Black Mirror. On pourrait même parler de 1984, oui. Quelque part. On est dans un monde un peu orwellien. Des camps d'internement, donc, pour les Ouïghours, la minorité musulmane qui est dans le Xinjiang. Qu'est-ce que vous savez de ces camps, Marie Holzmann ? On a entendu parler de peut-être de millions de personnes internées.
C'est quelque chose d'absolument abominable. Hein. On pense maintenant qu'il y aurait environ 1 million de Ouïghours qui seraient dans des camps, disons, de lavage de cerveau, et qu'il y aurait 2 millions de Ouïghours qui seraient dans des camps ouverts, c'est-à-dire des camps d'éducation où ils viennent le matin et ils repartent le soir. Ça fait donc 3 millions de Ouïghours auxquels on est en train de dire Xi Jinping est le plus grand, se confire dans la religion, c'est très mal, je vais apprendre le chinois, je vais parler couramment chinois, je vais laisser tomber ma langue maternelle qui est l'ouïghour, c'est une langue turcophone. On dit bien 3 millions de gens concernés par cette répression sur une population qui tourne autour de 10 millions. Donc on est à du quasiment 30%. Mais le plus dramatique, c'est que beaucoup de Ouïghours disparaissent dans cette affaire. Je connais très bien Dolkun Issa, qui est le président du World Ouïghour Congress, qui vit à Munich, et en juin il était totalement décomposé parce qu'il a appris que sa mère était décédée début mai, donc il l'a appris 6 semaines plus tard, dans un de ces fameux camps de rééducation. Il ne connaît ni les circonstances, ni le lieu exact, ni la date exacte, ni ce qui est arrivé à son corps. Donc vous imaginez le traumatisme pour le parent qui est sans aucune information de sa famille. Je cite ce cas parce que c'est un cas très très fréquent maintenant. Il y a des gens qui ont disparu depuis 2-3 ans. Ils sont rentrés de Turquie, d'Égypte ou de Paris ou d'ailleurs. On sait qu'ils ont pris l'avion, qu'ils sont descendus de l'avion tel jour en 2016, et depuis plus rien.
C'est quand, hein, des millions de personnes qui sont victimes qui sont l'objet de lavage de cerveau. Julia Cornalba, vous avez des témoignages, vous avez réussi à recueillir des témoignages.
Oui, oui. Alors au début, effectivement, c'était extrêmement difficile pour nous parce que on n'avait bien entendu pas la possibilité d'interviewer sur place, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas accéder
au camp. On imagine que c'est pas un milieu spécialement ouvert. Oui.
Voilà. Et du coup, on ne pouvait que interroger. On a pu interroger des centaines de Kazakhs en dehors de la Chine continentale, bien évidemment. Et effectivement, maintenant, on peut se baser sur de nombreux témoignages qui font état de torture à l'intérieur de ces camps. C'est-à-dire que on a vu un rétropédalage du gouvernement chinois qui a bien été obligé à un moment donné de dire que ces camps existaient, puisque faut dire que jusqu'à mi-octobre, ces camps n'existaient pas selon le gouvernement chinois. Donc il y a eu un rétropédalage, mais qui n'est absolument pas satisfaisant, puisque le gouverneur du Xinjiang a parlé de centres de formation professionnelle gratuite. Donc on voit le cynisme absolu qu'il y a à l'intérieur de cette phrase quand on sait ce qui se passe dans ces camps, quoi.
Il y avait la semaine dernière à Genève la revue des droits de l'homme, c'est tous les 5 ans. La réaction chinoise à cette revue, chacun interprète les droits de l'homme comme il le veut. On met en avant le progrès économique et on n'a pas entendu grand-chose finalement de la réaction internationale. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Marie Holzmann?
Ce qu'il faut en penser, c'est extrêmement préoccupant. C'est-à-dire que les grands pays démocrates, disons, France, Grande-Bretagne, Canada, Amérique, etc., ont tous fait des suggestions, ils ont posé des questions, ils ont préconisé un certain nombre de mesures qui étaient vraiment très bien. Ils n'ont pas mâché leurs mots, ils ont dit ce qu'ils pensaient aux Chinois, qu'il fallait arrêter les internements des Ouïghours, laisser la liberté religieuse, la liberté d'expression, etc., etc. C'était nickel. Mais ils étaient vraiment en minorité. C'est-à-dire que le délégué du Pakistan, par exemple, a dit « Monsieur le délégué chinois, nous avons appris que d'ici quelques années, vous auriez éradiqué la pauvreté. C'est formidable, donnez-nous la recette. » Alors évidemment, le représentant a dit « On va faire ceci, cela. » Mais surtout, à la fin de cette révision universelle, la Chine a été applaudie, ça c'est du jamais vu. Ça veut dire que les gens qui sont achetés par la Chine, disons-le proprement, sont majoritaires.
C'est cette lutte pour les droits de l'homme. J'allais vous poser la question, Julia Cornalba, quand les dirigeants occidentaux notamment vont en Chine et qu'ils parlent discrètement ou plus ou moins discrètement de droits de l'homme, est-ce que finalement faire pression sur les Chinois sur ce thème des droits de l'homme, est-ce que ça permet d'obtenir une amélioration des conditions? Est-ce que ça marche?
En tout cas, c'est pas nous qui allons dire le contraire. C'est un peu notre cheval de bataille. Maintenant, je pense qu'il faut absolument combattre cette espèce de culturalisme qui laisserait penser que les droits de l'homme n'ont rien d'universel. C'est effectivement ce que défend Xi Jinping. Et on pourrait tout simplement regarder du côté de Taïwan. Voilà, il y a absolument aucun culturalisme, aucune voix différente. Qui serait propre à la Chine par rapport aux droits de l'homme. Je veux dire, il n'y a qu'une manière il y a des droits fondamentaux et ces droits fondamentaux doivent être respectés, point barre.
Est-ce qu'il y a des conséquences économiques et culturelles? Moi, j'ai lu de plus en plus souvent dans les journaux que les Occidentaux hésitent à s'expatrier en Chine à cause des restrictions aux libertés, à cause de la censure de l'Internet. Est-ce que ça influe sur les échanges?
Évidemment. Par exemple, dans nos départements de langues orientales, on avait toujours une majorité d'étudiants en chinois. Et là, depuis 2-3 ans, le nombre de candidats au chinois est en train de baisser dramatiquement. Mais vous savez la raison? C'est parce qu'ils ne peuvent plus se connecter à Facebook, à Twitter, à WhatsApp. Et donc ça leur apparaît comme une censure insupportable.
Merci Marie Holzmann, merci à vous Julia Cornalba d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Hélène Avril, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Participez au débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour.